Bonsoir. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Athéna, la conseillère des héros. Ces réflexions ne furent qu'une courte parenthèse pour notre héros, car de nouveau, Eurysthée va lui proposer de vaincre le géant aux trois corps, Gérion, et lui voler son troupeau de bœufs. Gérion vivait à l'extrémité occidentale du monde. Il était fermier et élevait des chevaux carnivores et d'autres animaux bizarres. Eurysthée exigea qu'Héraclès lui amène les bœufs roux de Gérion, géant colossal dont les flancs se ramifiaient en trois corps. Gérion était roi de Tartessos, en Espagne, ville qui se situait en Andalousie. Il était considéré comme l'homme le plus fort de la terre. Il possédait un troupeau de bœufs d'une grande beauté, gardé par un berger, Eurythéon, et par un monstre chien à trois têtes. Se mesurer à lui, pour notre héros, était donc un défi des plus importants. Le fait d'avoir réussi tant d'épreuves avait développé son ego de manière démesurée. Pour obéir à ce nouvel ordre, Héraclès partit vers l'Occident en longeant la côte africaine. Arrivé au détroit qui sépare l'Europe de l'Afrique, il éleva deux colonnes, une sur chaque continent, pour commémorer son passage. Vive le détroit de Gibraltar. On les appelle depuis les colonnes d'Héraclès. À cet endroit, le soleil très ardent l'incommoda. Il banda son arc et lui décocha une flèche. Étonné de cette audace, le soleil, pour apaiser le vaillant héros et lui permettre de continuer sa route, lui prêta la coupe d'or qui le transportait à travers l'océan et le guidait jusqu'au rivage où il remontait au ciel pour éclairer la terre. Héraclès s'embarqua donc dans la coupe et parvint au terme de son voyage. Il passa la nuit à épier les troupeaux. Le chien vigilant aboya. Héraclès l'assomma d'un coup de massue. Il fit subir le même sort au bouvier qui était accouru au secours de son chien. Puis il décocha à Gérion une flèche fatale qui transperça ses trois corps en même temps. Victorieux, il ramena le troupeau à Eurysthée. Huit pour Zeus, deux pour Héra. Dans la foule, on applaudit bien fort le héros. Même s'il n'a pas fini ses travaux d'intérêt public, il est considéré comme le meilleur. Cette histoire a dû vous rappeler certaines illustrations que vous avez connues dans vos livres de bibliothèque. Mais quelqu'un veut s'exprimer dans la foule. Il dépasse juste la tête d'une grande jarre en faisant des signes. « Oui, vous l'avez reconnu, c'est Eurysthée. Que veut-il ? Je n'entends pas. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Ah, il dit qu'Héraclès doit voler les pommes d'or des Hespérides. » Le 11e des travaux d'Héraclès consistait à rapporter les fruits d'or d'un pommier, cadeau de Gaïa à Héra. Elle avait planté dans son jardin divin, qui se trouvait sur les pentes du mont Atlas, là où les chevaux du char de soleil achèvent leur randonnée en se couchant à l'ouest de l'océan Atlantique. Un jour, Héra s'aperçut que les filles d'Atlas, les Hespérides, à qui elle avait confié la garde de l'arbre, volaient les pommes. Elle plaça un dragon à 100 têtes, Ladon, autour du pommier pour en interdire l'approche. Partir avec son petit panier pour récolter des pommes. Original. La pomme. Mais cela me rappelle d'autres histoires. Bon, passons. Héraclès reprit la route de l'Occident, mais pas plus que nous ne savait où trouver le mystérieux jardin. Il erra longtemps et arriva à l'ouest, sur les bords de l'Éridan. Là, des nymphes lui conseillèrent de s'adresser à Néré. Il le trouva endormi sur le rivage. Héraclès l'enchaîna et lui ordonna de lui révéler la retraite des Hespérides. Drôle de manière de demander son chemin. Pour effrayer Héraclès, Néré se transforma en lion, puis en serpent et enfin en flamme. Mais notre héros a des nerfs d'acier et puis le coup du transformeur, il l'a déjà vu, ça. Héraclès résista et Néré, en désespoir de cause et aussi pour se débarrasser de ce perturbateur, accepta de lui confier le secret des Hespérides. Déchaîné, au sens premier, Néré retourna dans les bras de Morphée. Notre héros partit donc aux confins du monde occidental et atteignit le jardin merveilleux. Il vit d'abord Atlas, qui soutenait de sa tête et de ses mains la voûte du ciel. Héraclès lui demanda quel était le moyen de s'emparer des pommes convoitées. Le géant s'offrit d'aller les cueillir, mais à deux conditions. La première était qu'Héraclès le débarrasse du dragon Ladon, le monstre à 100 têtes, gardien du jardin. Un importun, lui dit-il, un importun. La seconde était que le héros le décharge de son fardeau pendant qu'il irait cueillir les pommes. Il commençait à avoir un limbago, oh, sérieux, très sérieux. Héraclès accepta. D'une seule flèche, il transperça les 100 têtes du monstre qui mourut d'un seul coup. Puis, il endossa la voûte céleste sur ses puissantes épaules. Lorsqu'Atlas revint, portant les précieuses pommes, il déclara vouloir les porter lui-même à Eurysthée. Héraclès feignit d'être d'accord, mais pria Atlas de reprendre un court instant la voûte céleste, le temps de glisser un coussin sous sa tête. Il s'empara alors des pommes d'or et s'enfuit pour ramener son butin à Eurysthée. Yes! Neuf pour Zeus, deux pour Héra. Bon, c'était pas très courtois, franchement. Mais des fois, on est obligé de faire des choses. Le tournoi, plein de suspens et de rebondissements, avance. La foule est en délire. Dans tous les stades, on scande son nom. Zeus est très fier de sa progéniture et se caresse la barbe car il adore les grands spectacles. Athéna continue à miser sur le bon cheval. Il n'y a guère que Héra qui a du mal à défendre ses valeurs et ses couleurs. Mais attention, tout n'est pas fini. Eurysthée est là et veille au grain, et il demande une dernière fois à Héraclès d'enchaîner Cerbère. Cerbère était le fils d'Echnida, au corps de vipère, couverte d'écailles et au beau visage de femme. Son père était Typhon, considéré parfois comme un monstre cracheur de flammes qui serait craint des dieux olympiens eux-mêmes. C'est la mère génitrice de toutes les horreurs. Des vents malfaisants, de la laie de Chromion, du renard de Thémès, du sphinx, de l'hydre de Lerne, de la chimère, de l'adon d'Orthos, du lion de Némée, du dragon de Colchide et de l'aigle du Caucase, etc., etc., etc. Comme ultime épreuve, Eurysthée demande à Héraclès de descendre aux enfers et d'en ramener Cerbère, le chien de garde des portes souterraines, un métier qui lui allait comme un gant. Hermès et Athéna l'escortèrent jusqu'au séjour des morts. Chut, vous dites rien à personne, on ne doit pas le savoir. Il atteignit le Styx et, traversant de grands fleuves de flammes, il parvint au pied du trône d'Hadès. Celui-ci lui permit d'emmener Cerbère à la lumière du jour. S'il pouvait se rendre maître de l'animal sans le secours d'aucune arme. « Vas-y, lui dit-il, je te regarde. » Cerbère était un chien monstrueux qui possédait trois têtes et dont le corps se terminait par une queue de dragon. Sa sonore voix d'airain terrorisait tous ceux qui l'approchaient. Sans armes, revêtu seulement de la peau du lion de Némée, Héraclès se présenta devant Cerbère. Il le saisit par le cou, juste à l'endroit où se réunissaient ses trois têtes, et quoique mordu, le serra si fort que le chien, se sentant étouffé, se décida à suivre le héros, la queue entre les pattes. « Bravo !» applaudit Hadès, le frère de Zeus. « On m'avait parlé de toi, mais tu es vraiment très fort !» Héraclès enchaîna l'animal et le tirant hors du gouffre, vint le montrer à Eurysthée. Terrifié, il retourna se cacher dans sa jarre et ordonna aussitôt de renvoyer le monstre aux enfers. « Allez, toutou, je te ramène à la maison. » Dix pour Zeus, deux pour Héra. Le tournoi est fini, c'est gagné. Il est le champion des champions. Et de plus, réhabilité aux yeux de tous et de toutes. Ainsi se terminent les 12 travaux d'Héraclès, imposés par Eurysthée. Que d'aventures et d'émotions! Nous allons laisser notre héros profiter de ses victoires, signer ses autographes et jouir un peu de la vie. Pourquoi pas voyager? D'ailleurs, il est invité un peu partout. À lui seul, il est une légende dans le monde grec. Mais nous n'en avons pas pour autant terminé avec Athéna, que nous retrouverons très bientôt. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une nuit réconfortante et vous attends pour le 20e épisode.